Une vie, une œuvre, Malcolm X, 19 mai 1925, Omaha, 21 février 1965, Harlem. Bonjour, il est né Malcolm Little, s'est appelé Elhadj Malek El-Shabazz et reste dans les mémoires sous le nom de Malcolm X. Confronté aux violences du Ku Klux Klan, fortement lié à l'Afrique et à Nation of Islam, il affirmait « Ce n'est pas la non-violence qui nous y aidera, nous ferons la révolution, nous nous soulèverons les armes à la main, comme à Cuba, comme en Algérie. » Il disait aussi « Après ma mort, ils feront de moi un raciste, quelqu'un de colérique qui inspire la peur. Je ne suis pas raciste, je ne crois en aucune forme de ségrégation, le concept du racisme m'est étranger, je n'apprécie pas tous ces mots en « isme ». Après son assassinat en 1965, lors de la Semaine nationale de la fraternité, ses idées seront rapidement reprises. Le mouvement révolutionnaire afro-américain Black Panthers, né à l'automne 1966 à Oakland, au cœur du ghetto noir de San Francisco. Françoise Esteb signe avec Lionel Quentin « Une vie, une œuvre, Malcolm X ».
On a vu notamment, il y a quelques années de cela, c'était très frappant, une exposition de cartes postales datant des années 50, où vous voyez des familles blanches endimanchées, avec les petites filles, vous savez, avec les robes bouffantes, les soquettes, voilà, des familles bien, qui avaient l'air peut-être de sortir de l'église, et qui en fait étaient réunies autour d'un arbre où il y avait le corps d'un noir à la fois pendu et calciné. Et c'était des cartes postales, c'est-à-dire que c'est des choses qui s'échangeaient comme quasiment des photos de pique-nique.
Mes frères et sœurs, je suis dans la ville, je suis dans les rues, sous le soleil, et je marche. Je marche et je vois cette lumière éclairer des visages de toutes sortes. Les visages de ceux qui, comme moi, marchent dans les rues de cette ville. Des visages qui se mettent à parler et qui disent « Je suis mécontent. Je suis désillusionné. J'en ai assez. » Des visages qui en arrivent à un tel point de frustration qu'ils commencent à se dire « Qu'avons-nous à perdre ?»
Moins de 24 heures après leur arrestation, trois des quatre membres du Ku Klux Klan arrêtés pour le meurtre de Madame Luizzo ont été relâchés. Le juge avait fixé à 50 000 $, soit 25 millions d'anciens francs, la caution. On pense que c'est l'impérial vizard, c'est-à-dire un des chefs du Ku Klux Klan, Robert Shelton, qui a payé pour que les trois membres du clan retrouvent leur liberté. Que va-t-il se passer maintenant? Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir d'accuser les quatre hommes du meurtre de Madame Luizzo. Cette tâche appartient à l'État d'Alabama, qui réunira un jury qui sera probablement blanc et qui, une fois de plus, acquittera plus ou moins les accusés.
Ziana, 9 ans. Nous n'avons jamais été aussi maltraités.
And I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated.
Émeute dans la ville de Charlotte, septembre 2016.
It's a shame that our fathers and mothers are killed.
C'est honteux que nos pères et nos mères soient tués. Nous ne pourrons plus les voir maintenant. C'est honteux que l'on doive aller au cimetière les enterrer. On ne devrait pas avoir de larmes. On a besoin que nos pères et nos mères soient près de nous.
La condition des Noirs aux États-Unis,
Nicole Bacharan,
elle est fondée sur l'histoire de l'esclavage. C'est un pays qui a été fondé officiellement sur des grands idéaux de liberté, avec la Constitution et la Déclaration d'indépendance, et qui a été fondé également, de manière silencieuse, non reconnue, sur l'esclavage, c'est-à-dire l'opposé absolu de ces principes de liberté. Et si l'esclavage a été aboli à la fin de la guerre de sécession en 1865, la ségrégation qui lui a succédé était presque aussi dure, particulièrement dans le sud des États-Unis, les États héritiers du royaume du coton, comme on le disait autrefois, mais dans le reste des États-Unis, et notamment dans le Nebraska, où est né Malcolm X en 1925, la ségrégation n'était pas inscrite dans les lois locales. Ça, c'était le cas dans le Sud, mais ailleurs, elle était inscrite dans les modes de vie, et notamment, outre les ségrégations par quartier, le fait d'être exclu de beaucoup d'emplois, le fait d'avoir souvent très difficilement accès aux urnes, c'était aussi renforcé par des groupes au service de la suprématie blanche, comme le Ku Klux Klan, qui dans les années 20, dans les années 30, était particulièrement puissant.
I'm not a politician. Not even a student of politics. In fact, I'm not a student of much of anything. I'm not a Democrat. I'm not a Republican. I don't even consider myself an American.
Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas républicain. Et je ne me tiens pas même pour un Américain. Non, je ne suis pas Américain.
Nothing but disguised hypocrisy.
Je suis l'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes de l'américanisme. L'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes d'une démocratie qui n'est rien d'autre qu'une hypocrisie déguisée. Je m'adresse à vous en tant que victime de ce système américain et je vois l'Amérique par les yeux de la victime. Ce n'est pas un rêve américain que je vois, mais un cauchemar américain.
Il faut penser Malcolm X comme quelqu'un avec plusieurs facettes.
Sarah Filabacabadio.
Comme plusieurs vies. Même si cette vie est très courte, Manning Marable, qui a écrit la seule biographie qui est disponible aujourd'hui, et que je trouve très, très intéressante parce qu'on voit l'humain derrière la figure, parle de réinvention. Ce qui est très intéressant dans la mesure où, effectivement, il a été enfant pauvre dans le Michigan. Il a été ensuite petit criminel dans des ghettos de différentes villes. Et puis après, il est devenu porte-parole de la Nation d'Islam. Et ensuite, il est devenu lui-même un leader politique indépendant. Et c'est cette évolution, ces morceaux de vie qui font réellement, en fait, le personnage de Malcolm X.
What is your real name?
Malcolm. Malcolm X.
Il a changé de nom à plusieurs reprises.
Il a changé plusieurs fois de nom.
Caroline Roland Diamond.
Qui correspondent à ces différents chapitres de sa vie, à cette réinvention de personnage.
Donc Malcolm X, ce X, c'est...
Le X, c'est la lettre qui signifie l'inconnu, qui témoigne de l'oppression des siècles d'esclavage. Donc les esclaves, les Africains transportés en Amérique pour être réduits en esclavage, ont perdu leurs origines. Leurs origines ont été effacées de force et on leur a donné un nom. Donc refuser son nom, le nom qui a été donné, le nom de naissance en Amérique, et le remplacer par ce X et signifier cette dénonciation des siècles d'oppression pendant l'esclavage.
The same slave master who owned us put his last name on us to denote that we were his property.
Le maître qui nous possédait comme esclaves nous attribuait son nom pour marquer qu'on lui appartenait.
L'enfance de Malcolm X, elle a été marquée à la fois par l'assassinat de proches, le harcèlement du Ku Klux Klan qui lui ont fait vivre des scènes d'horreur quand il était tout petit, et même la maison où habitait Malcolm X, enfant avec ses parents et ses frères et sœurs, a été brûlé sans que la police n'intervienne du tout. Quatre de ses oncles, en effet, ont été lynchés et son père, finalement, après X menaces, a été tué.
Il a été tué d'une façon absolument abominable. On l'a retrouvé coupé en deux par un tramway.
Le père de Malcolm X était un militant, de la cause noire, qui était pasteur, qui a été très souvent menacé, a été tué, écrasé par un tramway. La police locale a conclu un suicide, mais voilà, tout laisse à penser évidemment qu'il a été tué de cette manière épouvantable par le Ku Klux Klan ou un groupe local du même acabit.
You to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin?
Nous détestions notre nez, la forme de notre nez, la forme de nos lèvres, la couleur de notre peau. Eh oui, c'est la vérité. Tant que nous détestions les soi-disant caractéristiques africaines, nous détestions notre propre aspect. Et vous m'appelez le prédicateur de la haine? Mais c'est vous qui nous avez appris à nous détester. Vous avez appris au monde à haïr une race tout entière. Et maintenant, vous avez l'audace de nous reprocher de vous détester pour la simple raison que nous n'aimons pas la corde que vous avez mise à notre cou.
L'Afrique est centrale dans la pensée de Malcolm X, Sarafila Bakabadio, et elle est centrale à plusieurs titres, et elle évolue également dans le temps.
L'Afrique, en fait, effectivement, est un territoire important pour Malcolm X. D'abord, à travers son père, qui a été membre de l'UNIA, l'organisation de Marcus Garvey, qui est donc United Negro Improvement Association, qui était une organisation fondée par ce Jamaïcain qui a migré aux États-Unis dans les années 20, et qui a essayé de construire un réseau aux États-Unis destiné à la libération en fait des peuples noirs, d'abord aux États-Unis contre la ségrégation, et puis après, de manière plus large, contre toute forme d'oppression des populations noires. Et dans ce schéma-là, l'Afrique est le centre en fait de la pensée de Garvey et le lieu potentiellement où les populations noires d'Amérique pourraient retourner. Garvey espère en fait fonder une république d'Afrique à terme. Malcolm X est familier en fait de ce genre de pensée parce que son père, en tant que militant, l'y a confronté. Il l'emmenait avec lui, comme certains de ses autres enfants, dans des meetings. Et aussi parce que quand il a eu une sorte de révélation, enfin ce qu'il appelle une révélation dans son autobiographie, à savoir quand il a migré d'une vie de petit criminel à celle de membre de la Nation d'Islam, l'organisation qui va le rendre connu, il a lu en fait les écrits de Garvey parmi d'autres penseurs et activistes noirs américains dans le sens du continent américain. Ceux qui pensent notamment qu'un retour vers l'Afrique serait intéressant, possible ou la seule solution contre la ségrégation.
Pour Malcolm X, l'Afrique transcende un espace géographique. C'est une culture, c'est une spiritualité, c'est un monde.
Ah oui, c'est même mieux que ça. C'est l'origine.
Romuald Fonkoua.
C'est l'origine, en fait, c'est de là que tout part dans son esprit. Et c'est peut-être de là aussi, ou plutôt c'est peut-être vers là qu'il faudrait retourner. Il y a une sorte de respect assez grand de l'Afrique chez Malcolm Little, qui deviendra plus tard Malcolm X. Et effectivement, cette sorte de retour vers l'Afrique se retrouve précisément dans le jeu qu'il aura justement avec la question de l'identité.
Malcolm X était le quatrième d'une fratrie de 8 frères et sœurs, et à la mort de leur père, la famille a absolument tout perdu. notamment par le fait que le père avait souscrit à une assurance vie qui lui coûtait fort cher, mais qu'à sa mort, comme on a la police locale, en dépit de toutes les preuves physiques même portées sur son corps, avait conclu à un suicide, cette assurance vie n'a pas été versée. Donc la famille n'avait rien. Et c'est vrai que la mère a été plongée dans une difficulté extrême pour essayer de pourvoir aux besoins de ses enfants, et qu'elle a totalement craqué, qu'elle a perdu la raison, ou en tout cas, c'est ce qui a été dit, elle a été mise dans une institution.
Elle a été internée pendant 26 ans.
Donc les enfants, les 8 enfants, ont été distribués séparément dans des familles d'accueil. Malcolm X, et on le verra d'ailleurs tout au long de sa vie, était quelqu'un de très brillant intellectuellement, sans aucun doute très brillant et très curieux aussi, avide d'apprendre. Il allait dans une école blanche, avec, je crois qu'il était le seul noir dans cette école blanche, et il était populaire, il était bien aimé de ses camarades, il avait été élu président de sa classe, et il aimait apprendre, il réussissait très très bien. Et donc quand il a été question de demander aux enfants ce qu'ils souhaitaient faire plus tard, lui a osé dire qu'il aimerait être avocat. Et effectivement, son professeur d'anglais, donc de littérature, nous dirions, en France, lui a dit, écoute, il faut que tu sois réaliste. Voilà, tu n'es qu'un noir, tu n'es qu'un nègre, comme on disait à l'époque. Il vaudrait mieux que tu fasses peut-être quelque chose comme menuisier, charpentier. Et voilà, ça l'a évidemment extrêmement choqué. Ça l'a ramené à ses pires préventions contre l'Amérique. Il a quitté l'école à 15 ans. Il a, on peut dire, vraiment sombré dans la délinquance.
France Inter, 1963.
Pour Joyce Neely, étudiante noire de 16 ans, même si l'on obtient des diplômes dans ces bonnes écoles, ils ne servent à rien. Si vous avez un diplôme de sortie d'un lycée et que vous cherchez du travail, votre demande sera automatiquement refusée parce que la couleur de votre peau figure sur les demandes d'emploi de l'Alabama. Le seul travail que vous puissiez faire est celui d'enseignant. Vous ne pourrez obtenir un emploi dans un grand magasin ou dans n'importe quel autre bureau de Birmingham. On ne vous emploiera pas parce que la couleur de votre peau est noire. D'autre part, Joyce Neely a été arrêtée il y a 3 semaines, lors des événements. On l'a mise en prison, on lui a dit « tu n'iras plus jamais en classe ».
If you go to jail, so what? If you're black, you were born in jail.
Et je n'ai pas peur de le dire. Si vous allez en prison, et alors? De toute façon, si vous êtes noir, vous êtes né en prison.
Malcolm X, qui était Malcolm Little, lorsque sa mère a été internée, il a connu la grande ville. Boston en 1940, et là, il est entré dans la pègre. Et James Baldwin dit ceci dans La prochaine fois le feu. Il dit « Je ne pouvais découvrir à un certain moment de son existence, quand il est jeune, aucune raison de principe pour ne point devenir un criminel. » Que vous inspire cette réflexion, Romuald Foncourt ? C'est-à-dire que un jeune comme Malcolm X n'avait aucune issue, aucun avenir.
Ah si, il a un avenir, c'est le crime. C'est tout l'avenir qui lui est tracé d'ailleurs. Et c'est bien l'avenir qu'il va emprunter pour quelqu'un à qui on refuse l'éducation, ce qui était quand même le cas de la plupart des Noirs des États-Unis, en particulier du Sud, à cette époque-là. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui n'est pas structuré. Pour quelqu'un qui, au fond, ne peut vivre que dans la marginalité. Ce qui est au fond le seul lieu autorisé, c'est-à-dire vivre dans la rue, vivre dans la bande, vivre de contrebande. Son destin était tout tracé. C'est-à-dire qu'au fond, pour les Noirs américains, ou c'était la plantation, ou c'est la prison, ou c'est le crime. Comme une sorte de fatalité, finalement. Il y a quand même un penchant vers le mal, avec un grand M, que l'on peut retrouver assez facilement dans, chez les jeunes, en fait, de noirs américains des années 40-50. Et il me semble que dans ces conditions-là, les noirs américains vivent à la manière des animaux. Et d'une certaine façon, il y a une animalité que l'on va retrouver précisément dans le comportement qui est celui de Malcolm X à un certain moment donné de son évolution. Cette sorte d'animalisation qui fait que l'existence ne pouvant reposer que sur le féroce, alors il n'y a que la férocité de l'individu qui peut permettre en quelque sorte à celui-ci de se sortir des conditions qui sont celles qu'on lui sert, bien sûr, n'est-ce pas, dans la société américaine de l'époque.
L'été 1940, Malcolm Little, qui n'est pas encore Malcolm X, découvre avec Boston la grande ville lorsqu'il va rendre visite à sa demi-sœur. Et là, c'est la découverte de la vie nocturne. Après, ce sera Harlem. À cette époque, un peu effervescente, de la jeunesse de Malcolm Little, Caroline Roland Diamond, il porte une tenue, la tenue Zazou, qui est une tenue considérée comme subversive à l'époque. Alors, est-ce que l'on peut considérer que cet aspect vestimentaire est le premier acte de subversion de Malcolm Little?
Je pense qu'on peut tout à fait dire que cette tenue Zazou donc, était un acte subversif, un acte politique, en ce sens qu'on est dans un contexte, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des restrictions, des rationnements très sévères sur toute une série de produits, y compris les tissus qui doivent être réservés à la fabrication d'uniformes à des fins militaires pour l'armée. Et donc afficher une tenue aussi voyante, avec des costumes très larges, aux épaules larges, était une manière de refuser le patriotisme ambiant.
On considérait que les Zazous refusaient, de par cette tenue même provocante, refusaient d'être intégrés à l'armée. Et d'ailleurs, Malcolm Little, lui aussi, va refuser l'intégration dans l'armée.
Il avait déclaré, pour précisément obtenir de ne pas être incorporé dans l'armée, il a fait cette déclaration à dessein très choquante en disant qu'il allait se ranger du côté des Japonais et tuer des Blancs. Donc, immédiatement, il a été déclaré inapte au service.
C'était un beau garçon, il aimait plaire, il aimait un mode de vie assez... si ce n'est luxueux, mais assez voyant. Disons, il avait les cheveux teints en roux, rouge, on l'appelait Red. Vous avez ces costumes à rayures que l'on voit dans certains films de gangsters. Je pense qu'il devait avoir une certaine allure. Et il vivait du deal de drogue, de la prostitution, du jeu, de vol. Et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter.
Et il a été condamné à 10 ans de prison et il en affectera 7.
10 ans de prison, c'est quand même beaucoup hein, pour un larcin, pour un vol. Mais précisément, c'est en prison qu'il va découvrir la religion. C'est en prison qu'il se convertit. Tiens, ça rappelle, n'est-ce pas, des choses d'aujourd'hui. Hein. C'est en prison qu'il se convertit. C'est en prison qu'il va se radicalise pas. C'est après qu'il va se radicaliser. Qu'il découvre qu'il y a un autre mode de vie qui peut passer justement par la religion. Mais pas n'importe laquelle religion. Le choix de tous les Noirs américains pour l'islam est un choix qui ne peut se comprendre que contre la religion chrétienne. C'est-à-dire qu'au fond, le christianisme, la religion catholique et, si j'ose dire, n'est-ce pas, c'est adjuvant, le protestantisme qui va avec, toutes ces religions-là sont des religions de l'opprobre. C'est en fait des religions qui conduisent à la prison, à emprisonner en quelque sorte l'âme noire dans sa noirceur, à l'emprisonner justement en enfer. Et effectivement, c'est tout l'enfer qu'on leur propose. Alors que la religion islamique, pour le coup, ou l'islam, précisément, pour le coup, c'est une religion de libération. De libération de l'individu. De l'individu par lui-même. Non pas de l'individu, comme on peut l'entendre aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers un djihad, qui est, n'est-ce pas, une sorte de lutte générale ou bien collective. Non, c'est un djihad sur soi. la religion qu'il a embrassée est une religion qui est une religion de la discipline corporelle. Il faut être discipliné, il faut être honnête, il faut être correct. Et je pense qu'il y a là une sorte de morale qui peut même être un peu dangereuse quand on la regarde rétrospectivement, mais qui va conduire justement à conformer des individus qui étaient en quelque sorte sur la voie du mal et qui vont retrouver, grâce à la religion musulmane, le droit chemin. Et ce droit chemin-là, il va vraiment le suivre. Oui, c'est ça le début de la radicalité chez lui. C'est une radicalisation sur soi. D'autant que dans leur esprit, cette religion-là est antérieure pour l'Afrique à la religion chrétienne. Et qu'au fond, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, la religion des ancêtres africains.
Mais il y avait Martin Luther King tout de même.
Ah, ça, c'est les deux faces du problème. c'est les deux faces du problème. Martin Luther King, lui, est pasteur. Il est resté dans la logique. Il pense qu'on peut transformer la société en s'y intégrant. Pas en s'y conformant, mais en s'y intégrant. En essayant de comprendre l'autre, en essayant de transformer l'autre. En essayant, dans la foi qui est la sienne, qui est la foi chrétienne, de pouvoir faire précisément appel à l'humanisme qui est contenu soit en chacun de nous, selon effectivement les préceptes qui sont ceux de la foi chrétienne. Malcolm, lui, ne le croit pas du tout.
Et puis, il a rencontré, toujours en prison, la Nation of Islam, la Nation de l'Islam, qui était un groupe de musulmans noirs fondé par Elijah Muhammad à Chicago, et il est devenu à la fois très religieux et très militant. La Nation of Islam, c'était peu de choses. Hein. Quand Malcolm X les a rejoints, il y avait environ 400 membres. Et la base de leur credo, c'était le séparatisme noir, le nationalisme et le séparatisme noir. Donc c'était fondé sur l'idée que pour avoir accès à l'égalité, les Noirs devaient avoir un État séparé. En Amérique, il n'était pas question d'intégration, de progrès lent à travers les institutions ou autre. Non, il s'agissait de lutter pour un État indépendant à l'intérieur des États-Unis.
Ça, ce sont les visées politiques. Mais tout ceci s'appuyait sur une théologie tout de même très, très particulière. Alors, il y avait eu le créateur de la Nation de l'Islam en 1930, qui était un dénommé Fard, et qui avait une cosmogonie incroyable. Donc, le noir était le premier homme sur Terre, et puis était arrivé un savant fou qui avait, par le biais de manipulation génétique, créé un démon, qui était le démon blanc. Alors, je vous laisse poursuivre, Nicole Bacharan.
Oui, on était en plein complotisme, dirait-on aujourd'hui. Effectivement, selon la Nation of Islam, Dieu était noir, Jésus était noir, les grands prophètes étaient noirs. Et c'est à la suite de visées et de poursuites scientifiques à la fois délirantes et malfaisantes qu'était né l'homme blanc qui était un diable. Donc tout cela, évidemment, nous paraît extrêmement folklorique. Je pense que dans les années 30, dans les années 40 ou 50, quand Malcolm X rejoint cette Nation of Islam, il y avait quelque chose de satisfaisant, probablement. Je ne sais pas s'il y croyait tout à fait, mais à essayer de fonder plus que l'égalité, même la supériorité noire dans la Bible, dans les écrits théologiques, dans l'Antiquité. C'était révolutionnaire d'affirmer la supériorité noire.
Mais tous les hommes blancs étaient tous des démons. Et il devait d'ailleurs, à la fin des temps, parce que cette Nation de l'Islam avait tout de même un message apocalyptique, ils devaient être tous terrassés par Allah.
Il n'y a aucun doute que la Nation of Islam était une secte réunie autour d'un gourou, avec des croyances assez folles, assez délirantes, mais construites de manière cohérente, et qui, très rapidement, c'est ce qui décevra Malcolm X, une secte qui restait enfermée dans ce monde autour du gourou, sans réellement chercher à changer quoi que ce soit à la condition des Noirs en Amérique, au-delà de déclarations politiques sur le séparatisme. Mais il n'y avait rien qui était fait.
Il y avait des pratiques également sectaires, comme par exemple les châtiments corporels. infligée aux membres de la secte qui, bon, dérivaient très légèrement du droit chemin, qui ne pratiquaient pas la cesse physique, etc. Alors que le Elijah Muhammad, lui, ne s'en privait pas. Et je crois que Malcolm X avait créé à l'intérieur même de la Nation de l'Islam une milice armée.
Malcolm X n'était pas un tendre, hein. il ne l'a jamais été. C'était quelqu'un de brillant, mais qui ne reculait pas devant la violence, ni théorique, ni concrète. Et c'est vrai qu'au début de son association, de son adhésion à la Nation of Islam, il était vraiment il est devenu très vite, à cause de sa très forte personnalité, le second d'Elijah Muhammad, et il avait toute l'énergie, le fanatisme des nouveaux convertis.
Bloodshed. The Russian Revolution. What was it based on? Land. The landless. Against the landlord. How did they bring it about? Bloodshed. You haven't got a revolution that doesn't involve bloodshed. And you're afraid to bleed. I said you're afraid to bleed.
La révolution russe. Sur quoi se fondait-elle? Sur la terre. Les sans-terres contre les propriétaires fonciers. Comment l'ont-ils faite? Par la fusion de sang. Il n'y a pas de révolution qui ne fasse pas couler le sang. Et vous avez peur de verser votre sang. Oui, vous avez peur de verser votre sang.
C'était un tribun. C'était quelqu'un qui avait un humour féroce. Il était d'une finesse, d'une justesse souvent.
Mohamed Rouabi.
Et ce côté, sur la scène face à un public, il était sans cesse sur la réalité, sur ce qui se passait, sur le monde de son époque. Et il interpellait bien souvent des hommes politiques, des leaders, des individus, et il y avait une sorte de réponse à chaque fois au moment où il y avait où il prenait la parole, que ce soit dans des meetings, etc. Souvent, il répondait à des attaques immédiates. Et il avait aussi l'art de la métaphore. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la citation, du poème, de la métaphore, et c'est très impressionnant. Enfin, aujourd'hui, on a assez rarement l'occasion de voir des leaders comme ça qui prennent la parole en public et qui font avancer, qui réfléchissent en même temps avec le peuple. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est-à-dire qu'il avait une grande maîtrise de la technique. Il n'y a pas un moment où on perd un mot, une virgule, une syllabe. Il était extrêmement précis et l'art qu'il avait de parler dans le micro et non pas à côté. Quand il s'éloignait, c'était pour faire un effet, donc il projetait la voix comme ça. Et il se rapprochait, il y avait des fois des moments où il parlait directement à l'oreille de son auditeur ou de son auditrice. Et je trouvais qu'il y avait là une grande force. Et il y avait aussi une deuxième chose, c'est qu'il y avait une grande musicalité aussi dans son... quand il parlait. Les espèces de circonvolutions, il y a ces espèces de crescendo aussi, où on va accélérer, il y a ces formes aussi de répétition. Puis on va finalement hausser le ton pour avoir une fin. Voilà, on va raconter une chose, une histoire, et à la fin, on va porter la chose très très haut, et on va faire un point final, et à ce moment-là, les gens applaudissent, etc. Donc c'est construit comme une espèce d'oratorio, je dirais, et il y a à l'intérieur une vraie dramaturgie. On est captif, et j'aimais beaucoup cette manière très presque animale parfois de s'adresser, de parler dans le micro, et je crois que ce côté un peu provocateur de Malcolm X, qui par ailleurs avait quand même, quand on voit des images, c'était quelqu'un de très doux, hein, il a une voix suave. Donc quand il est virulent, il fait de la voix, hein, mais toujours avec cette espèce de sourire, toujours avec cette espèce de, je dirais, d'ironie un petit peu, en sachant très bien que il passait très bien à la télévision. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément d'émissions de télévision où il était invité et il parlait tranquillement, etc. Mais il y avait un charisme, une force, une puissance comme ça quand il regardait la caméra, quand il pointait du doigt. C'était quelqu'un de... Il était assez grand. Et oui, il y avait quelque chose de... comment dire, d'inquiétant chez lui, je dirais. Mais, d'une certaine manière, il était très bien habillé. Il avait un costume, une cravate, une chemise blanche toujours impeccable, bien mise. C'était quelqu'un de très séduisant, il avait une grande classe. Et ça contrastait beaucoup avec le discours qu'il peut avoir, quelquefois, en pointant l'autre du doigt, en disant... Si, attention, moi, si vous me mettez si vous me frappez, je vais pas vous dire merci, je vais pas vous tendre l'autre joue, je vais frapper à mon tour. Maintenant, si vous me tendez la main, je vais vous tendre la main aussi.
Malcolm X.
How are you gonna be non-violent in Mississippi as violent as you were in Korea? How can you justify being non-violent in Mississippi and Alabama when your churches are being bombed and your little girls are being murdered and at the same time you're gonna get violent with Hitler? And told Joe and somebody else that you don't even know.
Comment justifier la non-violence au Mississippi ou en Alabama alors que vos églises sont dynamitées, que vos petites filles sont assassinées et qu'en même temps vous êtes violent contre Hitler, contre Tojo, contre des gens que vous ne connaissez pas? Si la violence est mauvaise aux États-Unis, la violence est mauvaise au dehors.
Defending black women and black children and black babies and black men. Then it's wrong for America to draft us and make us violent abroad in defense of her.
C'est mal de défendre par la violence les enfants noirs et les femmes noires, les bébés noirs et les hommes noirs. Alors c'est mal pour l'Amérique de faire de nous des soldats et de nous apprendre la violence pour la défendre.
For America to draft us and teach us how to be violent in defense of her.
Si l'Amérique a raison de faire de nous des soldats et de nous apprendre la violence pour la défendre.
To do whatever is necessary to defend our own people right here in this country.
Alors nous avons raison, vous et moi, de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre notre peuple ici, dans notre pays.
Before you put on this record, understand, this is for all of my ancestors who were raped, who were killed and hung because of their plight for freedom and for dignity. They died for me and they died for you. This is for them to know that, yes, even today in 1992, we are still fired up and we're still talking about revolution.
Caroline Roland-Diamond, vous vous élevez contre cette idée un petit peu de principe qui veut que l'on oppose la non-violence, les mouvements non-violents, alors bien entendu avec la figure emblématique de Martin Luther King, aux mouvements plus radicaux qui prônent la violence, évidemment figure de Malcolm X. Pour vous, il y a une imbrication entre les différents mouvements de libération des Noirs américains ?
Il y a une très forte imbrication des différents mouvements des Noirs américains pour cet objectif commun qui était l'égalité et la justice, au-delà de la simple question des droits civiques. L'opposition qu'on a très fréquemment entre non-violence, réformisme de Martin Luther King et violence de Malcolm X est excessive. Il y avait une imbrication très forte dans les pratiques des militants. Les militants non-violents afficher cette non-violence pour des raisons de stratégie, pour des raisons de respectabilité du mouvement. Mais les militants même non-violents, donc même de l'organisation de Martin Luther King, la SCLC, étaient très souvent accompagnés dans leurs actions par des militants armés, qui étaient là pour les protéger. Il y a une différence entre violence et autodéfense, autodéfense armée. Et quand on revendique non pas la violence, l'attaque, l'agression gratuite, mais l'autodéfense armée, là on revendique un des droits fondamentaux des citoyens américains. On revient au deuxième amendement à la Constitution, le droit des citoyens de porter des armes, et c'était une des grandes revendications des Noirs américains, que de défendre ce droit fondamental à la fois à la survie et à la défense de leur dignité.
Et c'est l'argument de Malcolm X.
C'est l'argument de Malcolm X, et... On peut aussi dire que donc, l'organisation à laquelle il a participé pendant de longues années, la Nation of Islam, a cette réputation d'être une organisation séparatiste, très radicale, prônant bien volontiers la violence. Or, quand on regarde son action sur le terrain, à travers ses publications ou différentes couvertures dans la presse, ou quand on regarde même les dossiers du FBI de surveillance de l'organisation, on voit que même la Nation of Islam collaborait volontiers au niveau local, dans les quartiers, avec d'autres organisations beaucoup plus réformistes, qui, elles, affichaient une volonté donc, d'action non violente pour l'amélioration de la vie dans les quartiers, sur des questions très pratiques, ou de lutte contre la discrimination à l'embauche par certains employeurs.
Faut être exclu, eh ben, on va décider de construire notre propre marge. Et c'est ça qui est intéressant chez Malcolm X, c'est qu'il décide de construire la marge.
Sarah Filabacabadio.
Et on va la rendre visible. Et c'est un jeu et une stratégie politique assez pertinente dans la mesure où c'est aussi forcer la majorité blanche de l'époque à voir cette marge qu'elle met de côté depuis toujours, à être confrontée à ses propres contradictions historiques et politiques. Malcolm X venait, par exemple, quand il y avait certaines personnes qui étaient arrêtées, il venait avec une cohorte de membres de la Nation d'Islam. Aucune violence, les gens venaient devant le commissariat, ils viennent, ils sont là. Et c'est vrai que c'est impressionnant, dans la mesure où c'est une armée silencieuse, très organisée, avec une rigidité militaire, mais il se passe rien. C'est-à-dire que les gens attendent le temps qu'il faut que la personne soit libérée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la présence. C'est ça qu'il veut promouvoir. Parce que pendant des siècles, comme disait Ralph Ellison, ils ont été des hommes invisibles. Et c'est là que fonctionne la ségrégation, c'est ils sont les petites mains qui font fonctionner certaines parties de la société, mais ils ne doivent pas être vus. Ils ne doivent pas modifier la structure. Ce que lui dit, c'est on va modifier de toute façon la structure, mais pas on va être là. Il parle de penser aussi les quartiers noirs comme des îlots et des territoires spécifiques. On va se gérer nous-mêmes, on va tout organiser nous-mêmes dans nos espaces de vie. Et si nécessaire, je ne vais pas me laisser frapper sans réagir, si nécessaire, on est armé et on ripostera. Il y a une expression qui résume assez bien la question, ça s'appelle, on dit « a nation within a nation », donc une nation dans la nation. Et donc c'est de cette idée-là aussi que vient l'idée de nationalisme dont il est l'un des promoteurs au milieu du XXe siècle.
Malcolm X est en marge, effectivement, mais en même temps, il ne veut pas s'intégrer à la société américaine. Il refuse le système entier de cette société.
Oui. Alors c'est là qu'on voit généralement apparaître en fait l'opposition peut-être un peu binaire avec Martin Luther King qui lui dans une optique de discussion et de négociation avec les autorités de l'époque et effectivement Malcolm X a un discours très très dur vis-à-vis des membres du mouvement pour les droits civiques qu'il considère comme ce qu'il appelle des oncles Tom.
There was two kinds of slaves. There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good, because they ate his food. But he left. They lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself.
Il faut que vous réfléchissiez à la différence qu'il y avait au temps de l'esclavage entre le nègre domestique et le nègre travailleur des champs. Les nègres domestiques, ce sont ceux qui vivaient dans la maison du maître. Ils étaient vêtus, ils mangeaient bien parce qu'ils mangeaient comme le maître, ce dont le maître ne voulait pas. Et ils aimaient le maître plus que le maître s'aimait lui-même. Sur la plantation, il y avait aussi les nègres travailleurs. Les nègres travailleurs, c'était les masses. Le nègre travailleur menait une vie d'enfer. Il haïssait son maître. Oui, il le haïssait.
He identified himself with his master more than his master identified with himself.
Tout comme le maître en ce temps-là se servait de l'oncle Tom, le nègre domestique,
pour maintenir les nègres de champ sous sa domination. Le vieux maître se sert aujourd'hui des nègres qui ne sont rien d'autre que les oncles Tom du XXe siècle pour nous tenir en échec et nous garder en main, vous et moi, pour nous garder pacifiques et non violents.
In those days, he was called a house nigger. And that's what we call him today because we still got some house niggers running around here.
Je suis un nègre de champ.
Dans cette communauté qui était la communauté ségrégée des Noirs, ben, tous les Noirs n'étaient pas logés à la même enseigne.
Romuald Fonquoi.
Tous les Noirs ne vivaient pas exactement de la même façon, la ségrégation. Tous les Noirs n'étaient pas, si je veux dire, socialement situés exactement ou logés, exactement, n'est-ce pas, à la même enseigne. À l'intérieur de l'espace qui est l'espace ségrégué, il y a des bourgeois noirs qui, au fond, n'est-ce pas, s'accommodent très bien de la ségrégation raciale. Exactement de la même manière qu'en Afrique du Sud, hein, ce qui est l'autre situation historique comparable. C'est-à-dire qu'au fond, tous les Noirs qui vivent dans les townships ne sont pas, n'est-ce pas, situés exactement à la même enseigne. Ceux qui s'accommodent justement du système sont ceux que dénonce Malcolm X parce qu'il estimait effectivement que voilà, ils se complaisaient là-dedans et qu'en gros, ça ne servait à rien, n'est-ce pas, de faire une révolte ou bien une révolution. Ça ne servait à rien de faire une insurrection. D'autant que pour la plupart, dans son esprit tout au moins, ces bourgeois, entre guillemets, n'étaient pas simplement des lâches, mais ça pouvait être également des collabos.
Je voulais vous demander de réagir à ce fragment de discours. Il y en a deux d'ailleurs tout à fait semblables.
Donc c'est Malcolm X qui parle?
Oui, c'est la petite chinoise de 9 ans.
Allez-y.
C'est cela l'Amérique, une prison. Alors que j'étais en prison, j'ai lu dans Life un article où l'on racontait comment une petite chinoise de 9 ans avait tiré sur son propre père à quatre pattes devant elle parce que c'était un oncle Tom de Chine. Quand ils ont fait leur révolution là-bas, ils ont pris toute une génération d'oncles Tom et les ont purement et simplement exterminés. 10 ans plus tard, cette fillette était une femme et il n'y avait plus d'oncle Tom en Chine. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus solides, les plus durs, les plus craints de l'homme blanc parce que l'on n'y trouve plus d'oncle Tom. Or, Malcolm X qualifiait Martin Luther King d'oncle Tom. Alors, quelle est votre réaction, Nicole Bacharan?
C'est l'idéologie des gardes rouges en Chine, de la révolution culturelle. C'est l'idéologie des Khmers rouges. C'est l'idéologie des enfants soldats dans beaucoup de conflits en Afrique. Enfin, c'est l'utilisation d'enfants soldats dans beaucoup de conflits. C'est ce qu'il y a de pire dans le fanatisme. Le pire, c'est le totalitarisme absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'innocents. Il n'y a pas d'individus. Il n'y a que des groupes ou des classes qui sont classées innocents ou coupables. Et on approuve, on sollicite, on encourage le fanatisme des plus jeunes qui n'ont aucun accès à l'esprit critique et qui peuvent se révéler d'une violence absolument effroyable. Donc ce que nous dit Malcolm X à ce moment-là, c'est qu'une partie de sa vie, il a été absolument fanatique.
L'unité que prône Malcolm est une unité raciale, une unité de la couleur, qui ne peut appeler qu'une autre unité de couleur en face. Donc, ça ne peut appeler, bien sûr, n'est-ce pas, qu'une sorte de guerre civile. C'est pour ça qu'à la fin, il est considéré comme un être dangereux. Là, pour le coup, il n'est vraiment pas stratège. On ne peut pas tout à la fois vouloir l'unité du monde noir et choisir dans cette unité les Noirs avec qui on va être unis. Bien sûr, on comprend très bien que dans la logique de l'époque, à la division de race, c'est rajouter la division de classe. Et que finalement, en mélangeant les deux, il a très bien compris qu'au fond, on ne pouvait sortir de la division de classe que par le meurtre dans la race. Ça ne peut pas marcher. Là, on comprend qu'il y a quelque chose justement qui fonctionne déjà très mal dans la manière par laquelle il essaie de trouver une issue à la marginalité qui est la sienne et la marginalité dans laquelle se trouve une partie de la société noire américaine. Il essaie de trouver justement une issue et il s'y prend mal, au fond. En appelant aux meurtres, je crois qu'il commet là une erreur. D'autant que c'est la bourgeoisie noire américaine qui sera, faudrait jamais l'oublier, en tête de la lutte justement, n'est-ce pas, pour la défense des droits civiques.
Alors, où irons-nous ensuite? Tout d'abord, il nous faut des amis. Il nous faut des nouveaux alliés. Toute la lutte en faveur des droits civiques doit faire l'objet d'une nouvelle interprétation, plus large, en transformant la lutte pour les droits civiques en lutte pour les droits de l'homme. Vous pourrez porter la cause des Noirs de ce pays devant les nations qui siègent à l'ONU. Vous pourrez traîner l'oncle Sam devant une cour internationale.
L'évolution de Malcolm va dans le sens de l'ouverture et non pas de la fermeture. Il a commencé au début à être le porte-parole, hein, c'est-à-dire que cette parole-là ne lui appartenait pas. Il était le porte-parole d'un mouvement qui aujourd'hui est devenu un mouvement extrémiste, un mouvement antisémite, raciste, provocateur, bête, je dirais, tout simplement.
Mohamed Rouabi.
Et qui ne représente pas grand-chose finalement, en tout cas dans... qui représente quelque chose qui n'est pas de l'ordre du progressisme.
Vous parlez de quel mouvement, là?
De la Nation de l'Islam.
Ah, de la Nation de l'Islam, voilà. Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Il était porte-parole d'Elijah Muhammad. Et il s'est séparé de ce mouvement, parce qu'il n'était plus en accord, et surtout, il trouvait que les choses étaient trop étriquées. Il voulait ouvrir les choses, son discours, ouvrir la réflexion aux gens qui étaient de l'autre côté de l'Amérique, que ça soit en Asie, que ça soit en Algérie ou dans les pays, comme on dit aujourd'hui, émergents, mais en tout cas en voie d'indépendance. Et c'était ça pour lui qui comptait, parce qu'il raconte, quand il va à la Mecque, c'est pas tellement des choses sur sa foi, mais il est subjugué par la diversité qui va autour de lui. Il dit, mais quand même, il y a des petits, des gros, des femmes, des gens aux yeux bleus, des blonds.
Des blancs.
Des blancs. Et il est, il dit, mais c'est... Mais, et ça, vraiment, c'est une chose qui l'a beaucoup marqué.
Nous étions tous des participants d'un même rituel, montrant un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences en Amérique m'avaient amené à croire ne jamais exister entre les blancs et les non-blancs.
Et je crois qu'il revient avec cette chose très très forte en disant mais on peut être très très fort, on peut être encore beaucoup plus puissant qu'on l'est, et parce que de par le monde, il y a des gens qui se font exploiter, il y a des gens qui subissent aussi la même chose que nous et que nous avons subi et que nous subissons encore. Et si on met en commun ça, on peut aller vraiment très très loin. Et je pense que c'est une chose qui a fait qu'il a pu devenir dangereux. C'est peut-être un des premiers à avoir eu comme ça une parole fédératrice de tous les mouvements d'opprimés du monde entier. C'est peut-être les prémices du tiers-mondisme.
Sur le chemin du retour vers les États-Unis, il fait aussi une tournée en Afrique. Et il a un objectif bien précis, c'est de demander aux leaders africains des nouvelles nations indépendantes de penser la lutte des Afro-Américains aux États-Unis comme un global, comme une révolution noire globale. Et il leur demande leur soutien. Donc il repart en fait aux États-Unis, mais toujours avec cette idée que les Noirs aux États-Unis ne sont plus à penser uniquement comme une minorité raciale aux États-Unis. Il les renomme Afro-Américains, donc avec le préfixe afro, pour signifier en fait cette part africaine dont ils sont toujours porteurs. Il pense une révolution globale en disant... Les peuples opprimés, et particulièrement les peuples noirs, sont sous le joug d'une même forme de domination qui est la suprématie blanche.
Y avait-il une part d'utopie chez Malcolm X ?
Il y a un espoir. Un espoir qui est lié au contexte historique. Au contexte historique mondial. Quand on sort des États-Unis, il faut regarder les changements qui se produisent à l'échelle mondiale. Il y a un espoir très net de... changement radical de la situation lié à la décolonisation. Et dans ce contexte international, le message de Malcolm X prend une autre portée. Il prend une autre résonance. Ce qui pourrait paraître utopique quand on regarde seulement l'échelle des États-Unis se comprend beaucoup mieux à l'échelle mondiale. Et il y a eu cet aspect international de stratège de Malcolm X qui voulait se acquérir, endosser une stature internationale. et inscrit son propre message et sa conception de la lutte aux États-Unis dans une stratégie globale de lutte anti-impérialiste. Il noue des contacts avec différents dirigeants anti-impérialistes. Alors, en particulier, on peut mentionner les contacts qu'il a eus avec Fidel Castro, pour Malcolm X, qui était le grand leader révolutionnaire.
C'est l'heure de martyr maintenant. Et si je dois en être un, ce sera pour la cause de la fraternité. C'est la seule chose qui puisse sauver ce pays.
Amen. 21 février 1965. Meeting à Harlem. 3 tueurs, une vingtaine de balles. Nation de l'islam, manipulation du FBI. El Hadj Malek El Shabazz, ultime nom de Malcolm X, est assassiné.
Aux États-Unis, Pierre Charpentier, Harlem est envahi par les forces de police. Le quartier noir de New York enterre aujourd'hui Malcolm X, le leader extrémiste assassiné dimanche dernier, au cours d'un meeting précisément à Harlem.
On a distribué des tracts à Harlem, des tracts qui disaient « Fermez vos boutiques, faites de ce jour un jour de deuil ». Peu de commerçants ont obéi, les Noirs d'Harlem donnent l'impression de vouloir demeurer à l'écart des querelles entre extrémistes. Pourtant, la mort de Malcolm X a profondément ému, la foule défile encore devant le cercueil qui est exposé, comme il est de coutume aux États-Unis, dans une maison funéraire. Les esprits sont tout prêts à s'échauffer, on soupçonne la secte des musulmans noirs d'avoir assassiné Malcolm X, et la nouvelle de l'arrestation de suspects noirs musulmans renforce ce sentiment.
Concrètement, non, il n'était pas efficace. C'est-à-dire, si on veut voir par l'efficacité l'obtention des droits au moyen de l'insurrection, ou bien au moyen de la révolte, ou bien au moyen du meurtre, non, pas du tout. Ça, c'est même le pire des chemins qu'il faudrait suivre. En revanche, cela n'empêche pas que son attitude fascine, parce que précisément, il est radical. Comme tout personnage radical, il devient un personnage historique. Comme tout personnage qui ne connaît pas de compromis, il devient un personnage fascinant. Oui, en ce sens-là, il représente quelque chose pour la conscience qui est la conscience noire américaine. En ce sens-là, il peut être efficace. C'est-à-dire qu'au fond, dès qu'on dit histoire noire américaine, on dit « Ah, Malcolm X, pourquoi ? C'est le grand leader qui a toujours dit non. »
Mais est-ce que c'est pour vous le leader majeur de l'identité noire, de la fierté noire,
Malcolm X ? Ah non, non, c'est pas pour moi, pas du tout. Un Nelson Mandela qui est passé par là quand même. Bon.
As Brother Malcolm said.
Nelson Mandela.
We declare.
Comme l'a dit le frère Malcolm.
Our right.
Nous déclarons notre droit.
On this earth.
Sur cette terre.
To be a man.
À être des hommes.
To be a human being.
À être humain.
To be given the rights.
À jouir des droits d'un être humain,
to be respected,
à être respecté
as a human being,
en tant qu'être humain
in this society,
dans cette société,
on this earth,
sur cette terre,
in this day,
aujourd'hui même,
which we intended to bring into existence,
toute chose que nous avons l'intention de faire exister.
By any means necessary.
Southern trees, barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Malcolm X, une émission de Françoise Esteb, avec Nicole Bacharan, Sarah Phila Bacabadio, Romuald Foncoua, Caroline Roland-Diamond, Mohamed Rouhebi et les voix de Malcolm X et de Nelson Mandela. Lecteur Jake Lamar, merci à Alice Servant-Mogavero, Archive INA, extrait du film de Spike Lee, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Fabien Gosset, Yves Lehors, mixage Éric Boisset, réalisation Lionel Quentin.
Merci pour votre écoute. Cette émission est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. Samedi prochain à 16h, rendez-vous pour Une vie, une œuvre, celle du galeriste Jean Fournier.